Bonjour chers auditeurs, Claire Tiercelin pour l'émission Miracle. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Petit rappel sur le curé d'Ars. Jean-Marie Vianney est né en 1786 à Dardilly, près de Lyon. Ordonné prêtre en 1815, Jean-Marie Vianney est nommé vicaire à Écully. En 1818, il arrive à Ars comme desservant. En 1821, il devient curé de la paroisse d'Ars. En 1824, il ouvre la Maison de la Providence, école pour filles dans un premier temps, elle deviendra un orphelinat. 1830 marque le point de départ des pèlerinages. En 1849, le curé d'Ars, toujours préoccupé par la pauvreté de ses paroissiens, fonde une école pour garçons confiée aux frères de la Sainte Famille de Belley. En 1858, 100 000 pèlerins viendront se confesser auprès du Saint-Curé. De nombreux pèlerins lui ont confié leurs doutes, leurs peines. Il restait parfois 17 heures par jour à confesser hommes et femmes, prêchant l'amour et la miséricorde. Il est devenu le confident de ses paroissiens, mais aussi des pèlerins et des prêtres. Voici quelques miracles obtenus à Ars. Un jour, une femme vient à Ars avec son fils paralysé. Elle attend devant l'église, mais à peine le curé la voit-il qu'il l'interpelle. La femme se confesse et en oublie de parler de son fils. Elle assiste avec l'enfant à la messe, puis le présente au père Vianney afin qu'il le bénisse. Le curé s'exclame « Mais il est trop grand pour être porté ainsi, mettez-le à terre !» Et il envoie la femme prier Sainte Philomène pour obtenir le miracle. Le petit prie lui-même une heure, puis se relève et court jusqu'à la porte en chaussettes. Voyant la pluie, il réclame des sabots pour aller jouer avec les autres enfants. Une autre fois, des parents accompagnent leur petit garçon malade voir le curé d'Ars. La maman se confesse et communie, mais le père, en froid avec le Seigneur, n'attend que la guérison de son fils. L'abbé Vianney le fait venir et l'encourage à se confesser. L'homme se montre d'abord très fermé, mais petit à petit, il est bouleversé par les paroles du curé et ouvre son cœur. Alors départ d'Ars, c'est un homme renouvelé qui s'en va avec son fils guéri. D'autres miracles dus au curé d'Ars ne concernent pas des personnes mais des situations. Le Saint-Curé avait fondé à Ars un orphelinat, la Providence, comptant une soixantaine de filles. Un jour, il ne reste pratiquement plus de farine. La boulangère désemparée vient trouver l'abbé Vianney qui la rassure. « Priez et faites votre pain !» À mesure qu'elle pétrit la pâte, celle-ci se met à gonfler jusqu'à remplir tout le pétrin. Le curé, apprenant cela, dit avec simplicité « Dieu est bien bon !» Une autre fois, la réserve de blé pour les orphelines est épuisée. L'abbé Vianney n'a pas le cœur de renvoyer les enfants. Il les fait prier pour demander le pain quotidien. Le curé rassemble les derniers grains du grenier en un tas et place au milieu une relique de saint François Régis qu'il vénérait particulièrement. Il se retire en prière et attend, et au bout d'un moment, il envoie chercher le blé. Lorsque la femme arrive, elle peut à peine ouvrir la porte et le blé commence à s'écouler par l'entrebâillement. Elle court chercher l'abbé Vianney et ensemble, ils constatent que le grenier est plein à ras-bord d'un blé qui n'avait pas la même teinte que l'ancien. Et voici un autre prêtre. Moins connu que le curé d'Ars, canonisé lui aussi, saint Eugène de Masneau. Comme ce saint n'est pas très connu, je vous le présenterai un peu longuement, avant de vous dévoiler le miracle qui lui aura permis d'être canonisé. Eugène de Masneau naît en France, à Aix-en-Provence, en 1782, dans une famille de juristes qui mène une vie très aisée. Après que son père eut manifesté son opposition à la Révolution, toute la famille dut chercher refuge en Italie. C'est dans la pauvreté qu'Eugène vivra son adolescence. Eugène a 20 ans lorsqu'il revient d'exil. Son désir le plus grand est de vivre à plein, de reprendre le temps perdu et d'épouser une riche héritière. Ses rêves s'écrouleront les uns après les autres. peu à peu les ravages sociaux et moraux qu'avait apporté la Révolution française ont un impact profond sur lui. Il est ému par la condition désastreuse du clergé et par la profonde ignorance religieuse du peuple qu'il découvre partout. Il prend la résolution de faire sa part pour répondre aux besoins urgents de l'Église. En 1808, il entre au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. En 1811, il est ordonné prêtre à Amiens. Son rêve est maintenant de devenir le serviteur et le prêtre des pauvres. Dès le début de son ministère, Eugène refuse une responsabilité diocésaine de prestige afin d'aller aux pauvres, aux travailleurs, aux jeunes, aux malades et aux prisonniers. En 1816, il fonde la Société des missionnaires de Provence qui reçoit l'approbation de Léon XII en 1826 et devient alors la Congrégation des missionnaires oblats de Marie Immaculée. Puis il est nommé évêque de Marseille en 1837. Il ne se contente pas de faciliter le retour d'instituts religieux comme la Compagnie de Jésus, mais il encourage personnellement la fondation de plusieurs nouvelles familles religieuses. Des œuvres spéciales sont lancées en faveur des jeunes, des ouvriers, des immigrants et de tous les nécessiteux nombreux dans cette ville dont le port se développe rapidement. Il entreprend la construction d'une nouvelle cathédrale, la Majore, et le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde. La période de son épiscopat à Marseille trouve Mgr de Masneau en pleine maturité spirituelle. Pasteur infatigable, rempli de zèle, solidement ancré dans son amour du Christ et de l'Église, il ne pense plus à lui-même, mais à toutes les personnes dont il a la charge et à l'œuvre d'évangélisation qui lui est confiée à Marseille et dans le monde. Durant ce temps de ministère intense, il reste toujours un homme de prière. L'Eucharistie est sa source d'inspiration et de renouveau. Pendant tout ce temps, Eugène de Masneau demeure le supérieur général des Oblats. Il reçoit de nombreuses demandes de l'étranger et, malgré le personnel réduit, il répond dans la foi. C'est en 1841 que partent les premiers Oblats pour le Canada. Sans tarder, ils s'aventureront dans les vastes plaines de l'Ouest pour attendre bientôt le cercle polaire. D'autres pays suivent, l'Angleterre en 1842, les États-Unis, Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka, en 1847, l'Afrique du Sud en 1851 et l'Irlande en 1855. Un évêque qui venait de lui rendre visite dira de lui ensuite « J'ai rencontré l'apôtre Paul ». À la fin de sa vie, il est devenu très libre intérieurement, face à l'éventualité du cardinalat qui lui a été promis et qui s'évanouit pour des raisons politiques, il a cette réflexion. Après tout, il est assez égal que l'on soit enterré en soutane rouge ou violette, le tout est d'arriver au ciel. Peu avant sa mort, le 21 mai 1861, fidèle à son tempérament, l'évêque âgé et gravement malade s'adresse à son entourage. « Si je viens à m'assoupir ou que je sois plus mal, veuillez me réveiller. Je veux mourir en sachant que je meurs. » Ces derniers mots aux Oblats sont un testament qui résume toute sa vie. « Pratiquez bien parmi vous la charité, la charité, la charité et au dehors le zèle pour le salut des âmes. » Et voici le miracle. En mars 1987, un père de famille mexicain, 55 ans, habitant de Mexico, est placé sous traitement médical d'urgence. Le 4 mai suivant, on lui diagnostique une tumeur maligne des voies biliaires. Le malade souffre d'une perte d'appétit, de fièvre, de vives douleurs thoraciques. Il a perdu 30 kilos, sa peau commence à jaunir, il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Son état de faiblesse l'empêche de recevoir un traitement de chimiothérapie ou d'être opéré. Le 12 mai, après lui avoir prescrit des calmants, le médecin le renvoie chez lui. À partir du 5 juin, son état empire. C'est une fin de vie, croit-on. Le surlendemain, la famille commence une neuvaine au bienheureux Eugène de Masneau, qui jouit d'une solide réputation de thaumaturge dans la paroisse et le pays. Parents, amis et le curé de la paroisse s'y associent. Matin et soir, on se relaie au chevet du malade. Le 15 juin, dernier jour de la neuvaine, la douleur est insupportable. Pendant la nuit suivante, les personnes présentes invoquent un stage terminal. Il faut se préparer aux obsèques. Le 17 juin, 2 jours plus tard donc, le malade se réveille, ouvre les yeux, s'agite et sans aucune aide, se lève et marche comme si de rien n'était. Une semaine plus tard, il sort sans difficulté, il se promène et fait ses courses. En novembre de la même année, il reprend son travail parfaitement guéri. Les nombreux examens médicaux qu'il subit indiquent que le cancer a disparu sans cause naturelle. En mars 1994, la commission médicale de la Congrégation pour la cause des saints confirme l'authenticité de ce prodige, permettant à l'Église de canoniser en 1995 Eugène de Masneau, ancien évêque de Marseille. Au revoir, chers auditeurs, rendez-vous le mois prochain pour d'autres miracles qui ont permis la béatification ou la canonisation de saints.